Mariko, c'est une femme pour vous ou non ?
Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin.
Ces propos très durs, ce sont ceux de la blogueuse Dora Mouto, en octobre 2022, face à Mariko, première mère transgenre de France. Des propos tenus à la télé publique, alors que la question des droits des personnes trans est plus que jamais clivante dans notre pays. Sur le sujet, la presse de droite s'affole d'une idéologie dangereuse pour la jeunesse, ça c'est le Figaro. Valeurs Actuelles souligne de son côté un délire transgenre. Un vocabulaire qui évoque une phase, une hystérie, une position politique. Mais les personnes transgenres ne sont pas apparues du jour au lendemain dans le paysage médiatique français. C'est juste que leurs histoires sont moins racontées, moins documentées, quand elles ne sont pas tout bonnement invisibilisées. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une pionnière, chez nous, en France, qui a bousculé les dogmes pendant 50 ans. 50 ans de combat pour se construire une vie dite normale. Jacqueline Dufresnoy, c'est son nom. Une femme qui s'est battue pour être femme, la première à changer d'état civil, la première à se marier, la première aussi à être connue du grand public pour ce qu'elle est, une femme transgenre.
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Coccinelle, demoiselle, un épisode signé Robin Schmitt.
Jacqueline Charlotte Dufresnoy naît femme, dans le corps d'un homme, le 23 août 1931. Elle passe son enfance dans le 3e arrondissement de Paris, dans une famille modeste. Son père est laveur de vitres et sa mère est ouvrière. Jacqueline se rend compte très tôt que son corps de jeune garçon ne correspond pas à ce qu'elle est profondément. Elle se sent femme, elle veut vivre femme. Pour elle, hors de question de devoir jouer avec les garçons dans la cour d'école. Elle sèche les cours pour retrouver l'intimité de sa chambre, où elle essaie des perruques et les robes de sa mère. Elle grandit douloureusement et peine à se trouver une vocation. Elle s'essaie à la coiffure en apprentissage d'abord, puis s'engage dans une usine automobile sous la pression de son père, qui veut qu'elle ait un travail de mec. Jacqueline n'est pas à sa place et c'est ce que lui font comprendre les moqueries de ses collègues à l'usine. D'ailleurs, on lui donne un petit surnom. Elle est appelée Coccinelle, tout ça parce qu'un jour, dans une fête, elle a porté une robe rouge à points noirs. Elle est le vilain petit canard de sa communauté. Le garçon de l'époque est trop petit, trop efféminé, trop extravagant. Quoi de mieux pour devenir un vrai mec alors que le service militaire ? Jacqueline est appelée, mais mise dehors au bout de 9 jours. Son aspect physique est vu comme trop féminin, un trop mauvais exemple pour les troupes de l'armée française. Une fois rentrée chez elle, Jacqueline se décide. Sur les conseils d'une amie, elle pousse pour la première fois les portes d'un cabaret à 18 ans. Et elle n'atterrit pas dans n'importe quel cabaret, mais chez Madame Arthur, l'une des adresses les plus prisées du monde de la nuit parisienne. Un cabaret transformiste où les hommes se griment en femmes pour le spectacle. Jacqueline se prend au jeu, fait ses preuves et rejoint rapidement la troupe. Elle est enfin libre d'exprimer sa féminité et enflamme les planches. Elle impose son style et son répertoire, c'est du jamais vu à Paris.
Ce qu'elle fait en scène, c'est prodigieux de simplicité.
Bambi est une performeuse et c'est une amie de Coccinelle.
Elle chante très lentement et elle fait un numéro de couture et tout est très simple. Et justement, tout est naturel, tout semble couler de source. Et je me vois en elle.
Sa silhouette de pin-up rappelle celle de Marilyn Monroe et elle fait le show avec d'imposantes perruques blondes, des décolletés plongeants et des talons hauts. Elle chante, danse et s'effeuille sous les yeux ébahis du public. En un battement d'aile, la Coccinelle affole les nuits parisiennes et s'impose comme une star de la nuit.
Aux Champs-Élysées, quand on me voit passer, tous les hommes s'empressent de se retourner.
Coccinelle !
Quand le long des clous, je traverse tout à coup, à mon passage, l'embouteillage est fou. Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc, qui trouble les garçons, là là. Est-ce mon petit nez retroussé, mes grands yeux étonnés.
Vous vous en doutez, la vie n'est pas la même dans le Paris de jour. Au début des années 50, l'État français condamne toujours le travestissement. La police des mœurs organise des descentes dans les rues du quartier de Pigalle. Car en France, il est encore illégal de porter des vêtements qui ne correspondent pas au sexe assigné à la naissance. C'est-à-dire que Jacqueline n'a pas le droit de mettre une robe en dehors du cabaret. Mais elle s'en fiche, elle se pavane dans les rues de Paris en fourrure, la tête haute, et elle devient de plus en plus populaire, son public est de plus en plus assidu. Elle est promue en 1953 meneuse de revue au Carousel, l'une des salles de music hall les plus connues de Paris. À l'époque, le nom d'un médecin marocain commence à circuler dans le monde de la nuit à Paris. Georges Burou tient ce qu'il appelle la clinique du Parc, à Casablanca, où, dans l'intimité de ses salles d'opération, le médecin aurait en réalité ouvert le temple du changement de sexe. Des opérations pionnières, de réattribution de sexe, moyennant plusieurs milliers d'euros. La rumeur de l'existence de cette clinique, elle n'échappe pas à Coccinelle. Elle atterrit au Maroc en 1958 et pose ses bagages au 13 rue du Capitaine Jacques Lapébie à Casablanca, l'adresse de la fameuse clinique du Parc. On peut dire que c'est un pari risqué. Outre le prix à payer, les vols retour sont périlleux, voire traumatiques, vu l'ampleur de l'opération. Et le suivi médical est nul. Pour faire court, l'opération peut se révéler mortelle. Bien évidemment déterminée, Coccinelle tente sa chance et passe sur le billard. Georges Burou fait opérer sa magie. Il salue la meneuse de revue d'un simple « bonjour mademoiselle » dès qu'elle se réveille. Sa vaginoplastie est une réussite. Jacqueline se sent enfin en parfaite harmonie avec son corps et ne subit aucune complication. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'à son retour à Paris, les journalistes français ébruitent l'opération. Son visage est dans tous les journaux, il l'érige, elle et son chirurgien, au rang de superstar. À Paris, son nom n'est plus simplement susurré la nuit, il est désormais sur toutes les lèvres. Elle surfe sur cette vague de célébrité et rallie Robert Badinter, avocat star du barreau de Paris. C'est lui qui portera l'abolition de la peine capitale et la dépénalisation de l'homosexualité 20 ans plus tard, en tant que garde des Sceaux de François Mitterrand. Mais en 1960, Jacqueline l'engage d'abord pour sa défense. Elle veut modifier son état civil et devenir une femme aussi aux yeux de l'administration française, du jamais vu en France. Robert Badinter plaide qu'une anomalie d'attribution de sexe aurait été découverte pendant l'opération de sa cliente. Elle serait née biologiquement femme et devrait alors être reconnue comme telle. Après délibération, la première chambre du tribunal civil de la Seine dit oui. Jacqueline Charlotte Dufresnoy est la première femme transgenre reconnue sur ses papiers. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle fait le tour des plateaux télévisés et continue à défrayer la chronique. Elle devient LA figure publique de la transidentité, encore considérée à l'époque comme une maladie mentale. Sa vie extraordinaire, en comparaison avec la norme de l'époque, heurte la bien-pensance et la religion catholique. Le 16 mars 1962, tous les regards sont vissés sur Jacqueline. C'est le grand jour. Elle épouse le journaliste sportif Francis Bonnet devant le maire du 17e arrondissement de Paris et devant le curé. Leur union est historique, le scandale éclate. C'est le premier mariage médiatisé en France d'une femme transgenre. On peut facilement dire que Coccinelle est une pionnière, elle les compile les premières fois. À la sortie de la mairie, la rue est noire de monde. Photographes et journalistes se poussent pour avoir la meilleure photo de la mariée, couverte d'un énorme voile blanc. Mais cette union n'est pas qu'un simple scandale people. La justice française s'en empare. Impossible pour elle qu'une femme transgenre puisse avoir accès au mariage. En conséquence, dès 1965, toute demande de rectification d'état civil pour une personne transgenre est refusée. La porte qui semblait s'entrouvrir pour d'autres femmes transgenres claque derrière Coccinelle.
Cherchez, cherchez la femme. Voyez, que je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame, que le mot féminin vraiment me convient.
Jacqueline Dufresnoy bénéficie dans les années 60 et 70 d'une notoriété inédite. La sulfureuse artiste continue de s'affranchir des normes. Elle s'éloigne notamment du music-hall et enregistre plusieurs 45 tours, comme celui que vous venez d'entendre. Elle côtoie Edith Piaf, Marlène Dietrich et elle s'essaie même au cinéma. Elle devient la figure trans française par excellence. Le directeur de l'Olympia, Bruno Cocatrix, lui écrit même un spectacle. Un show autour du travestisme qu'elle jouera pendant 7 mois sur les planches. Avant de tourner dans le monde entier pour chanter son répertoire et de s'installer finalement à Berlin. C'est en 1986 qu'elle fait son grand retour en France. Là où tout a commencé, chez Madame Arthur. Elle est à nouveau la coqueluche des plateaux télé, chez Frédéric Mitterrand, chez Thierry Ardisson, la première porte-parole de la cause trans sur les chaînes grand public en France. Un pays où les personnes transgenres sont encore considérées légalement comme malades et ne peuvent changer leur état civil.
Je ne comprends pas un pays comme la France qui ne laisse pas les gens qui ne sont pas bien dans leur peau s'opérer.
Coccinelle sur Antenne 2 en 1987.
Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez, pourquoi on ne ferait pas le reste? Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000 opérés. Moi, je n'appelle pas ça des transsexuels, je dis les femmes de l'an 2000. Et puis, je voudrais dire aussi une chose, les mamans, les papas qui ont un enfant dans ce cas-là, ne les rejetez pas. Ils sont malheureux, il faut les aider. C'est comme les drogués, il faut les aider.
Jacqueline Charlotte Dufresnoy, dite Coccinelle, s'éloigne des projecteurs au début des années 90 à 69 ans. De son vivant, elle assiste à un premier assouplissement de la loi française en ce qui concerne les personnes trans. En 1991, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme car elle refuse de modifier l'état civil des personnes trans. L'année suivante, la loi est abrogée.
En France, les transsexuels ont désormais une existence légale. La Cour de cassation a en effet déclaré, au nom du respect dû à la vie privée, que les transsexuels avaient droit à la modification de la mention de leur sexe sur les actes d'état civil.
Coccinelle, elle, aspire à une vie plus calme. Elle se retire définitivement à Marseille, où elle se produit dans un plus petit cabaret. Depuis le Sud, elle cofonde l'association Devenir Femme, une association engagée dans le soutien, l'acceptation et la reconnaissance sociale des personnes transféminines en France. La Coccinelle s'envole une dernière fois, le 9 octobre 2006, à Marseille, des suites d'un AVC. Son héritage perdure encore derrière elle, elle qui a tant participé à la reconnaissance des personnes trans en France, à leur représentation dans les médias. Elle voulait simplement vivre sa vie, elle a fini par bousculer l'ordre établi pour toutes celles qui ont suivi. 3 ans après sa disparition, la France devient le premier pays du monde à ne plus considérer la transidentité comme une maladie mentale.
La France a pris une décision qualifiée d'historique par les associations. Nous sommes en effet le premier pays au monde à ne plus considérer la transsexualité comme une maladie mentale.
En 2024, la sécurité des personnes trans n'est pas encore acquise en France. Il suffit de regarder les chiffres des agressions. Elles sont en hausse de 27% d'après une étude de SOS Homophobie. Des agressions que vivent surtout les femmes trans. Les associations demandent au gouvernement d'en faire plus et dénoncent aussi un manque de représentation dans les médias. Pour essayer de comprendre l'impact du parcours de Jacqueline, Charlotte Dufresnoy ou Coccinelle sur la vie des personnes trans en France, j'ai passé un coup de fil à la comédienne trans Maëva Triou. Sous le nom de scène La Briochée, elle a participé à la première saison de la télé-réalité Drag Race France.
Toi, La Briochée, dans ta vie, t'as eu peut-être même 2 coming out à faire.
Oui, exact. C'était un peu bizarre. J'ai compris que j'étais trans avant même de savoir que j'aimais les hommes, mais j'ai pris peur.
Une télé-réalité qui met en compétition des drag queens, et elle se produit aussi chez Madame Arthur, comme Coccinelle à ses débuts.
Elle a eu des éclats médiatiques qui ont, mine de rien, servi à battre le pavé pour nos droits aujourd'hui. Son mariage avait fait grand bruit à l'époque à Coccinelle. Et elle l'a pas fait dans le but de provoquer le scandale. C'était pas forcément son envie, même si après, d'une certaine manière, elle a surfé dessus. Mais en même temps, je me dis, derrière cette simple histoire, bah, ça a permis aussi de mettre en lumière énormément de choses. Quand j'ai vu aussi des émissions dans les années 80, où elle revenait régulièrement dans les émissions, puis qu'elle avait ce discours très clair, elle m'a dit, si vous avez des enfants comme moi, enfin, les rejetez pas, aidez-les, ça sera pour le mieux pour tout le monde. je me dis waouh, c'est dingue en fait de qu'elle, enfin elle est vraiment ce discours hyper simple qui est sans détour et il sent que ça soit pathos non plus quoi. C'est toute l'importance de la représentation où effectivement de pouvoir être un modèle de réussite, enfin juste aussi de pouvoir montrer aux gens bah ok je suis trans, ça fait partie de mon histoire, mais à côté de ça regardez le métier que je fais, regardez la vie que j'ai, regardez, je suis équilibré, tout va bien, je suis en bonne santé, je suis très bien entouré. Pourquoi vous avez envie d'aller contre ça? Pourquoi vous voulez absolument prouver que c'est un mauvais chemin de vie, que c'est un chemin de désolation, de tristesse et de désespoir, quand en fait on est finalement nombreuses à pouvoir montrer que c'est un chemin au contraire d'espoir où on va mieux. Parce que enfin, Coccinelle, elle était très heureuse, elle a été très heureuse et très accomplie dans sa vie. Enfin, moi personnellement, toutes les personnes trans que je connais, c'est quand même très souvent des histoires qui ont cette aura positive.
Vous trouvez qu'il existe encore des représentations de femmes transgenres fortes en France, comme Coccinelle par exemple ?
En France, non. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'on ait une figure grand public française qui soit vue et montrée régulièrement pour qu'elle rentre dans l'inconscient collectif et que quand on demande à des gens de citer une femme trans ou un homme trans ou une personnalité trans, les personnes citent directement, ça leur vienne directement à l'esprit. Justement, en prenant l'exemple de Bambi ou même de Coccinelle, comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas, par exemple, décidé de raconter leur histoire à travers une putain de série? En Espagne, ils ont fait la série sur la Veneno, qui est absolument incroyable. Et nous, on a aussi les moyens, par exemple, de pouvoir créer des super œuvres qui puissent raconter ces histoires-là. Et en fait, personne n'a jamais voulu le faire et personne n'a jamais voulu s'y intéresser. Et c'est sacrément dommage, je trouve, quand même.
On l'a vu ensemble, dans les années 80, Coccinelle est devenue la coqueluche des médias. Elle a fait le tour des plateaux télé, mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a progressé dans la représentation des personnes trans dans les médias?
On nous laisse très rarement la parole, on nous laisse très rarement nous exprimer, on nous laisse très rarement la possibilité de défendre nous-mêmes nos histoires. Enfin, en fait, les rares émissions qu'on commençait à le faire, c'est des émissions comme Drag Race France, par exemple. Où moi-même j'ai fait la saison 1 et on a eu la saison 2 avec Moon, où là en fait moi j'ai jamais eu le sentiment d'avoir vu ça avant, en tout cas en France, mais où là on est complètement maîtresse et maître de nos discours sans que il y ait un parti qui vienne orienter le débat ou même d'ailleurs remettre notre parole en question, quoi, avec souvent de la diffamation et de la désinformation. Ce qui, à un moment donné, est clairement quelque chose de politique et d'orienté. C'est à partir du moment où on décide de débattre sur nos tronches, mais qu'on décide pas de nous inviter, ou alors d'inviter les mauvaises personnes, parce que oui, toutes les personnes trans ne sont pas forcément des personnes expertes de leurs histoires, et avec parfois suffisamment de pédagogie ou de bagou pour pouvoir répondre en fait à l'opposition. Ça aussi, c'est à un moment donné, c'est presque un choix. Enfin, je veux dire, il y a des personnes trans qui font partie d'associations, qui sont des personnes très éduquées sur leurs histoires, sur l'histoire de la représentation. Moi-même, j'en fais partie. Bizarrement, c'est jamais nous qu'on appelle. On va prendre parfois une personne trans lambda qui sait à peine s'exprimer en public ou qui a jamais eu l'occasion de se défendre lors d'un débat et qui souvent va pouvoir perdre ses moyens ou va manquer d'arguments. Donc ça aussi, à un moment donné, c'est délibéré et c'est complètement orienté aussi comme choix.
Et vous avez pas l'impression que ça change du tout ?
En ce moment, bof, pas trop. Enfin, en tout cas, je veux dire, à quand remonte la dernière fois que vous avez pu voir une personne trans sur un plateau ? Ben voilà. À partir de là, ça veut tout dire.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Robin Schmitt en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.